Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 10h05, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. Bonne fête à tous. Si vous nous rejoignez, on vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi avec Alizé Cornet, David Douillet, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Dans quelques jours maintenant, vous le savez, on sera en 2026. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns autour de la table qui vont faire la fête. Christophe en tête.
Pas du tout, c'est pas toujours.
Christophe qui est en vacances la semaine prochaine. C'est pour ça que je me dis que tu vas faire la fête.
Bah écoute, on va pas se gêner quand même.
Bah,
j'en ai plus beaucoup encore à faire.
Des fêtes, c'est vrai que t'as plus de 60 ans. Donc
on m'a bien fait sentir tout à l'heure, j'ai bien compris.
Il pourrait se passer beaucoup de choses en 2026 dans le monde du sport. Les GG, sortez vos boules de cristal et vos meilleures prédictions. Je vais vous énoncer des événements qui pourraient arriver en 2026. C'est à vous de me dire si vous y croyez ou non et pourquoi. C'est bon ?
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
Est-ce que tout le monde a compris ?
Est-ce que David, c'est pour toi ?
On développe pas forcément, juste on dit j'y crois, j'y crois pas.
Là, j'y crois pas. Et après, je demanderai à l'un d'entre vous de développer.
C'est doux.
Oui.
Attention.
Non, rien.
J'allais
mettre un tir au sportif là. De toute façon,
à part
Fred évidemment qui lui va être. Mais autrement, ils vont croire à tout. Ils vont penser que l'équipe de France va être championne du monde de foot, que le PSG va régner.
Ils vont être très optimistes.
Que Loïs Boisson va remporter Roland Garros. Enfin tout ça quoi. Je suis sûr que.
Alors, on est optimiste. On peut être optimiste, mais soyons objectifs aussi, évidemment.
Réaliste.
Le Paris Saint-Germain va réaliser le doublé en Ligue des Champions. Après sa première victoire l'année dernière, les hommes de Luis Enrique vont confirmer qu'ils sont bien la meilleure équipe du monde en réalisant l'exploit que le Real a réussi ces 30 dernières années, remporter deux fois de suite la Ligue des Champions. J'y crois ou j'y crois pas, Fred ?
Non, j'y crois pas.
Chris ?
Non.
Alizé ?
Non, j'y crois pas.
David ?
Oui.
Ben moi, j'y crois.
Ça m'étonne pas de toi, tiens.
Alors vas-y, David. C'est à toi l'honneur.
Moi,
tu es seul contre tous.
J'y crois et très sincèrement, je pense que ce sera la victoire de leur entraîneur. Parce que je trouve qu'il gère son équipe d'une main de maître. Voilà, c'est ça. Entre tous les championnats, il arrive à gérer son groupe, il arrive à gérer les individus, il arrive à gérer les personnalités, il arrive à gérer les talents. Et c'est pas pour rien qu'il en a gagné une. La recette fonctionne. Je pense qu'il peut réitérer l'exploit cette année, oui. Oui, j'y crois.
Alors pourquoi vous y croyez pas, vous ?
Ils seront attendus, tu l'as dit, c'est pas arrivé depuis le Real, depuis
il y a quelques
années.
Il n'y a que le Real qui l'a fait.
Mais c'est possible donc.
Donc dans l'absolu, oui, dans l'absolu c'est possible et je pense qu'ils seront pas loin. Mais encore une fois, ils sont plus dans la même conjoncture, j'ai envie de dire maintenant, c'est les leaders, c'est eux qui ont gagné. C'est les gagnants. Ils sont en position, ils sont plus dans cette position de je surprends tout le monde et je bats tout le monde. Il y a un truc sur lequel je suis assez d'accord avec David, c'est qu'ils sont en avance par rapport à l'année dernière finalement.
Parce que
En Ligue des Champions, ils sont un peu en avance.
Ouais.
D'accord. Sauf que maintenant, leur statut a changé. Et quand ton statut change, t'es plus attendu, tu peux moins faire des gros coups. Donc honnêtement, je pense que ça sera pas loin, mais ça passera pas.
Je peux prendre l'argument à l'inverse. Le statut a changé précisément. Donc les autres peuvent être
plus motivés
dans un sentiment d'infériorité, dans un sentiment où
le PSG fait peur, ça c'est sûr.
Difficile à jouer.
Ou alors le PSG est une cible dans le dos.
Voilà.
Le PSG est une cible dans le dos. Mais quand tu joues contre le PSG, t'as envie de le battre.
Est-ce que c'est négatif ?
C'est là où les autres peuvent commettre les erreurs et plus d'erreurs qu'avant. Parce que quand t'as une cible dans le dos, tu peux dire ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et je suis sûr qu'Enrique est capable de surprendre. Je suis sûr qu'Enrique peut jouer sur des paramètres qui risquent encore de déstabiliser les autres. Parce que, pour moi, il fait partie, si ce n'est le meilleur entraîneur du monde. Voilà.
Alors, ceux qui ne voient pas le PSG gagner la Ligue des Champions cette année, qui d'autre alors pourrait les concurrencer ? Est-ce que vous voyez des équipes plus fortes ? Chris,
je pense qu'ils sont vraiment... ils font partie des trois ou quatre grands favoris pour se succéder à eux-mêmes. Il y a Arsenal en ce moment qui est quand même... qui est étincelant dans le championnat anglais. T'as le Bayern qui a battu... le PSG qui est quand même au sommet. Voilà.
Il y a du monde.
Il y a quand même du monde. Après le Barça, je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette équipe. Mais il y a du beau monde. Et puis il y a surtout une espèce de malédiction autour justement du vainqueur sortant de la Ligue des Champions. Seul le grand Real a réussi depuis les années 50 à se succéder à lui-même. Donc franchement, faudra être super super costaud pour y arriver. Je dis pas que ça
c'est possible. Le souhaite, mais,
évidemment, évidemment qu'on le souhaite. Ce serait magnifique là franchement là, je pense.
Ça nous ferait
donc,
pas,
jamais, que c'est pas possible. Les là, premiers, la question elle est claire. C'est est-ce que c'est possible ou c'est pas possible?
C'est possible.
Ça paraît quand même pas.
Ah bah alors.
C'est possible mais j'y crois pas.
Voilà. Non, la question c'est pas vraiment si c'est possible ou si c'est possible. Oui voilà bref.
Non mais c'est surtout.
Il a pas compris encore.
Après il faut se rendre compte des réalités. Ils ont été touchés par la grâce au niveau des blessures l'année dernière aussi. On va voir comment ça se passe.
Là c'est plus compliqué.
Si dans la période où c'est compliqué.
On sent que l'enchaînement de la saison dernière commence à payer aussi dans les jambes parisiennes. Tu fais bien de le dire. J'y crois pas. La nouvelle saison de Top 14 est en route et Toulouse est encore au sommet, co-leader avec Pau. On pourrait pourquoi pas avoir pour la troisième fois de suite une finale entre les Toulousains et l'Union Bordeaux-Bègles, mais si on avait une issue différente cette fois-ci. Et si l'UBB mettait fin au règne de Toulouse, sachant que Bordeaux-Bègles, champion d'Europe en titre, était tout proche de faire chuter Toulouse lors de la dernière finale du Top 14. Alors Bordeaux-Bègles qui fait chuter Toulouse, j'y crois ou j'y crois pas, Alizé?
Oh, elle commence par moi en plus. Instinctivement, j'y crois.
Fred?
J'y crois.
David?
Bah, j'y crois pas.
Chris?
J'y crois pas.
Vous êtes deux à pas y croire. Chris, vas-y, on t'écoute.
Non, mais alors évidemment que l'UBB a réalisé une grande finale, mais ils ont fini quand même par être battus par le Stade Toulousain. Et il y a quand même un garçon qui vient de réintégrer les rangs du Stade Toulousain.
Un petit Antoine.
C'est un match winner. C'est un,
j'avais oublié ce détail.
Un top 14 winner. Il s'appelle Antoine Dupont. Et je pense qu'avec lui, le Stade Toulousain est intouchable. Même si en face, t'as des Biel-Biarré, t'as des Penaud, t'as des Jalibert qui font une saison extraordinaire.
On rappelle que l'UBB a battu Toulouse en Champions Cup la saison dernière.
Oui, mais c'était mais derrière ils ont perdu en finale du championnat. Oui.
Et mais donc c'est possible, ils peuvent les battre.
Sans Antoine Dupont. Voilà, je pense que Toulouse est parti. Même si on leur a retiré les points, ils seront quand même là et ils seront quand même, à mon avis, encore
c'est au sommet pendant pas quelques un petit années. Détail.
Ils ont une équipe incroyable. Ils ont des jeunes derrière qui poussent. Hein. C'est une machine incroyable.
Moi, j'ai envie. D'y croire.
Mais moi j'aimerais bien.
Je rêve que
l'UBB soit champion de France.
La première fois, ils prennent une rousse. La deuxième fois, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un progrès. Donc, une issue à la troisième.
Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Et le titre en Champions Cup.
En Champions Cup, ça te fait du bien de gagner ce titre-là, de battre Toulouse aussi. Ben, moi, j'ai envie d'y croire, justement.
David, toi, j'ai l'impression que c'est la présence d'Antoine Dupont qui te fait croire plus que jamais en Toulouse.
Oui, c'est mon argument. C'est mon argument. Un personnage tel qu'Antoine, il est tellement impressionnant, fédérateur, rassurant dans une équipe, au-delà de son talent qu'il est capable de proposer sur le terrain, que rien que le fait qu'il soit là pour l'UBB, ceux qui le connaissent et qui jouent en équipe de France avec lui en face à l'UBB vont peut-être cogiter autrement. Donc je pense que c'est un atout majeur.
Ouais, ça met la pression quand on voit qu'Antoine Dupont est sur le terrain en face, effectivement.
Ah oui.
Il y a une progression. Ouais. Moi, j'y crois.
Oui, il y a une progression.
Voilà,
je les trouve sur une bonne lancée. Je me dis voilà, j'avais oublié que c'est vrai la réintégration d'Antoine Dupont et du coup j'y crois un petit peu.
Ouais,
moins, mais bon.
Ça t'a calmé. Voilà. Là, ça t'a calmé. J'y crois pas. On parlait tout à l'heure de Victor Wembanyama, superstar en NBA avec les Spurs, deuxième de la conférence Ouest et qui ont déjà battu trois fois en trois confrontations le leader et champion en titre Oklahoma City. De quoi nous faire penser que Victor Wembanyama pourrait devenir champion NBA dès cette saison avec les Spurs? J'y crois ou j'y crois pas, Fred?
J'y crois pas, mais...
Ah!
Mais pourquoi pas?
D'accord, ah ouais. C'est original.
D'accord,
c'est original. Je croyais qu'on
s'en prenait chacun son tour. Non,
mais Fred, stop. Ici, dans cette émission, il y a un Normand. C'est moi qui ai le droit de dire j'y crois, mais match à tout.
Mais moi, je suis un Normand, on fait exactement la même chose, tu sais, David.
T'as dit j'y crois pas.
J'y crois pas.
Chris?
J'y crois pas non plus.
David?
Moi, j'y crois.
Voilà. Ah, l'optimiste du jour, il est là. Alizé.
Ah, mais non, mais sans déconner, on va se prendre.
Je fais confiance au basketteur de la table. J'y crois pas.
Alors, Fred, pourquoi tu y crois pas? Et puis, on écoutera David, le plus optimiste, après.
Et pourquoi tu y crois aussi?
Ben, en fait, je n'y crois pas parce que c'est vrai qu'il y a eu une évolution incroyable du côté des Spurs. Ça joue beaucoup mieux au basket. C'est incroyable ce qu'ils ont fait de battre OKC trois fois. C'est une équipe assez fantastique, OKC, qui avait perdu peu de matchs.
C'est les seuls à l'avoir fait cette saison.
Ils ont battu trois fois. Donc, c'est quand même impressionnant. Mais j'ai l'impression que cette équipe manque encore un peu de vécu, que cette équipe a besoin de continuer à travailler ensemble pour continuer à progresser. Il faut savoir que c'est rare qu'une équipe arrive aussi rapidement à gagner un titre après avoir être sortie des bas-fonds, entre guillemets, parce que c'était un peu difficile les années précédentes avec cette équipe de San Antonio. Mais en même temps, il y a des joueurs de très très bon niveau, ça joue très très bien. Je suis très impressionné par leur niveau de jeu. Je pensais pas qu'ils seraient à ce niveau-là à ce moment, mais je pense qu'ils vont pas la gagner cette année. Mais attention dans les années à venir.
Mais l'expérience en play-off, ça compte aussi.
L'expérience en play-off.
C'est quand même une autre phase du championnat.
L'expérience en play-off, c'est extrêmement important, et c'est vrai que pour l'instant, c'est l'expérience, elle est nulle hein, pour San Antonio. Donc c'est ça qui me fait dire que non. Mais ça joue très très bien au basket, très très bien.
J'entends David un petit peu souffler.
Non, mais quel dommage de terminer sur de la tiédeur cette année-là. Mais c'est pas possible. Oh,
un peu de panache.
Ils ont une dynamique.
Oui, ils viennent de perdre contre Utah.
Tu as raison. Super dynamique. Mais tu perds des matchs en saison régulière.
Une dynamique. Moi, je trouve que les Spurs ont retrouvé leur locomotive. Voilà. Tipeee a été la locomotive des Spurs et Wemby est en train de le devenir et ils sont en train de construire tout ça autour de lui. J'ai ce sentiment-là. Je suis pas un spécialiste comme toi, Fred, mais c'est vraiment ce qui rejaillit.
Mais sur ça, je suis d'accord avec toi.
Et je pense qu'elle progresse de match en match, même si quelquefois, et tu viens de le dire, ils ont perdu, il y a besoin de rectifier quelques curseurs, etc., etc. Je pense qu'il est capable, dès cette année, ils sont capables d'aller chercher la bagouze pour la mettre au doigt.
Ça aurait de la gueule, en tout cas, ça c'est sûr. Et rapidement, là, on va disserter rapidement, mais Victor Wembanyama, MVP de la saison 1, ça se fait ou pas? J'y crois pas, Fred.
J'y crois pas parce que alors déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont un niveau au-dessus de lui pour l'instant. Alors plein, il y a quelques joueurs qui ont un niveau au-dessus de lui et il est pas encore dans cette conversation réduite. Il est pas dans le top 3 pour l'instant des MVP.
Ah ouais.
Et en
fragile,
plus
sinon.
Et fragile. Et en fait il faut jouer un nombre de matchs aussi quand t'es en NBA et je suis pas sûr qu'il soit capable de jouer tous ces matchs en fait.
J'ai une question à te poser. Moi, ça m'a toujours semblé un peu magouille ratatouille, ces histoires de MVP.
Magouille ratatouille.
Oui, magouille ratatouille, tu vois, on reste dans la cuisine.
Oui.
Enfin, c'est-à-dire que quelquefois, enfin, souvent, j'ai trouvé qu'il y avait une préférence plutôt sur des joueurs américains, etc., par rapport à d'autres qui viennent de l'extérieur.
Bah alors, je peux pas te laisser dire ça. Hein. Les derniers MVP, c'est pas des Américains.
Okay. Alors, voilà, je veux t'entendre là-dessus.
Yannis a été MVP.
C'est vraiment vrai?
Oui, Yannis a été MVP. Ensuite.
Mais parce qu'ils ont. Ils ont pas le choix.
Après, Nikola Jokic a été MVP. Ensuite, il y a Shea qui a été MVP. À un moment, sur les 5 ou 6 dernières années.
Mais parce qu'il y a
pas d'Américain. C'est pas d'Américain, en fait.
Parce qu'il n'y a pas aussi le niveau américain en face. Les meilleurs joueurs en ce moment en NBA sont européens.
Donc, on peut pas leur dire.
Ou étrangers.
On peut pas dire qu'on favorise les Américains.
Mais parce qu'ils ont pas le choix.
Oui, mais peu importe qu'ils aient le choix ou pas.
Je comprends ce que veut dire David, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques MVP ou voilà, même
quand le dernier MVP américain, c'était il y a quelques années. Hein.
Non, mais au-delà de ça, même quand ils le donnent pas à Jokic le dernier, on pouvait quand même s'interroger aussi à ce moment-là.
Bah, c'était chez.
Moi j'étais plus Nicolas. Voilà. Il est nord-américain et c'est important.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas vrai.
Allez, j'y crois ou j'y crois pas. Isaac Hadjar a été le Français le plus en vue de la saison dernière en Formule 1 avec une 11e place au classement des pilotes. Tout le monde a parlé de lui en fin de saison quand il a officiellement signé chez Red Bull pour devenir le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. Pour sa première saison F1, il est déjà monté sur le podium une fois en août au Grand Prix des Pays-Bas. Des débuts prometteurs qui peuvent nous laisser penser qu'il va remporter le premier Grand Prix de sa carrière en 2026. J'y crois ou j'y crois pas, Alizé?
Mais c'est pas faire de l'ombre à Verstappen, c'est pas exactement la même chose. Hein.
Non. Suis-moi, voix.
Alors oui, j'y crois.
Très bien, Fred.
Non, j'y crois pas.
Bon alors, Chris?
C'est impossible à dire. On sait pas ce que valent les voitures. Non, mais c'est vrai, il y a un changement.
Donnez-moi les règles pour que je sache.
Il y a un tel changement de réglementation pour la saison à venir que c'est impossible de. Là, il faut vraiment savoir lire dans une boule de cristal. Ouais. Et moi, je sais pas lire dans les boules de cristal.
David, est-ce que tu penses qu'il a la capacité à.
Christophe a totalement raison. Vraiment, c'est...
Non, non, mais enregistre cette phrase, Christophe.
Ouais, c'est la première fois qu'il me dit ça.
Ouais, non, mais vraiment,
il a, quand même, il a, tu vois. Non,
je le dis souvent. Il a totalement raison. Mais par contre, si on fait, si on s'imagine, on coupe le truc et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé là de, durant ces dernières saisons avec des voitures telles qu'on les a connues là et l'état d'esprit de Red Bull. Là, notre ami Adja rentre dans une écurie où tout, absolument tout, était axé sur un seul pilote par rapport aux deux pilotes. Ça commence à changer avec l'arrivée du français Laurent Méquies à la tête de Red Bull. Ça commence à changer. Mais est-ce que les changements vont être suffisamment significatifs pour avoir quelque chose de très partagé entre deux pilotes pour la saison prochaine? Là, j'ai un doute. Et c'est pour ces raisons-là que je dis que j'y crois pas.
Ouais, c'est sûr que d'être le coéquipier de Max Verstappen, c'est pas forcément le plus bel atout pour lui.
Ouais, mais ça dépend de ce que veut faire Verstappen. Est-ce qu'il va rester chez Red Bull, là?
C'est
ce qu'il disait hier en disant, ouais, moi, je pourrais quitter.
Est-ce qu'il va pas quitter le championnat aussi, comme ça? Ouais, ce serait la voie libre, hein.
Ah, bah là, à ce moment-là.
Adjar.
Mais il a malgré tout les capacités. Si on pense à un Français vainqueur d'un Grand Prix la saison prochaine, on pense d'abord à Isaac Hadjar.
Oui, il faudrait que
bah, évidemment.
Donc il faut être optimiste.
Soyons optimistes. Je vous sens pas optimiste ce matin là. Là, je sens pas que l'optimisme est de mise. Un dernier, j'y crois pas. C'est sans aucun doute l'épopée française de cette année 2025. Louise Boisson parvenue jusqu'en demi-finale de Roland-Garros alors qu'elle était détentrice d'une wildcard et à ce moment-là classée 361e joueuse mondiale. Un parcours où elle fait tomber certaines des meilleures joueuse du monde, lui permettant de se faire connaître du grand public et devenant la numéro 1 française. Et bien en 2026, va-t-elle à nouveau nous faire rêver dans le grand chelem parisien et atteindre cette fois-ci, pourquoi pas, la finale? J'y crois ou j'y crois pas? Fred?
J'y crois pas.
Chris?
J'y crois pas.
David?
Moi non plus, j'y crois pas.
Alizé?
Moi, j'y crois qu'elle va briller. Atteindre la finale, c'est chaud.
T'as raison de nuancer.
Et à condition que son corps tienne.
Alors, qu'est-ce qui te fait penser que c'était pas juste un one shot à ce moment-là pour Louise Boisson à Roland-Garros et qu'elle peut rééditer cet exploit-là, en tout cas, alors, d'aller loin dans le tournoi?
Déjà, dans un premier temps, parce qu'elle a un jeu qui s'adapte parfaitement à la terre battue. Dans un deuxième temps, parce que deux mois après Roland-Garros, elle a gagné son premier titre 250 WTA. Donc, elle a confirmé tout de suite après avec un titre sur le circuit. Parce qu'elle a pris en expérience depuis un an et depuis ce premier Roland-Garros. Et je pense sincèrement qu'elle a trouvé la clé, en tout cas, pour se transcender à Roland-Garros. Alors certes, on ne l'attendait pas du tout cette année. Il ne va pas y avoir l'effet de surprise l'année prochaine. Mais moi, je compte sur sa progression, sur le travail qu'elle met au quotidien. Mais voilà, le petit bémol, c'est j'espère qu'elle va réussir à arriver en santé parce qu'elle a des petits pépins à droite à gauche de temps en temps. Et ce serait vraiment pour moi le seul bâton qu'elle pourrait se mettre dans les roues. C'est à ce niveau-là. Mais si elle arrive en santé et avec quelques match pour sa confiance dès le début d'année, elle peut faire mal pour une deuxième année consécutive.
Physiquement, là, elle est au top là, en ce moment. Pour l'Australie, elle peut...
Oui, bah elle est en pleine période foncière, donc bah parfois il y a des moments où on a des petites douleurs qui arrivent, mais j'imagine qu'elle va mettre le paquet pour être en forme pour l'Australian Open, ouais.
Et pas trop faire la fête, du coup.
Oh bah non.
De toute façon, Loïs, elle est dans son projet. Hein. Elle est en mission.
Elle a cette détermination aussi, très déterminée.
Ouais, mais,
Alizé, moi j'ai une question. Nous, de l'extérieur, enfin, en tout cas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle a été touchée par la grâce, quand même, assez à ce Roland-Garros. Est-ce que c'est une impression?
C'est marrant parce que moi, non.
Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça?
Bah, pour l'avoir
j'ai l'impression
joué,
que c'était. Voilà, c'était. C'est arrivé.
C'était
parce
ce moment-là ou jamais.
Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu déjà l'effet de surprise. Ouais, il y a eu déjà l'effet de surprise, comme je l'ai évoqué précédemment. Et ça peut faire une énorme différence. Quand on joue très bien, mais qu'on est inconnu des joueuses, les filles n'ont pas forcément de tactique adaptée. Il y a quand même un effet de surprise où on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et je pense qu'elle a utilisé cet effet de surprise. Elle a exploité vraiment cette opportunité. Mais en termes de niveau de jeu, moi, je l'ai trouvé dans le niveau de jeu que je lui connais depuis que je l'ai joué il y a deux ans à Saint-Malo. Elle met vraiment dans la balle ce que je sais qu'elle peut mettre. Après, c'était la gestion de l'événement qui était très impressionnante pour moi. Le fait qu'elle se soit pas laissée démonter, qu'elle ait battu des joueuses top 10 sur le central de Roland-Garros grâce à cette stabilité émotionnelle, je pense qu'elle qu'elle a ça en elle, mais j'ai pas eu l'impression qu'elle était dans le rouge tant que ça et qu'elle était dans un état de grâce. Oui, il y a eu des facteurs qui, comme si les pièces du puzzle s'étaient rassemblées pour faire une épopée incroyable, mais au final, en termes de niveau de jeu, elle peut très bien réitérer de très bons résultats sur terre battue. Peut-être pas une finale, mais un gros Roland Garros.
Tu la vois un jour remporter Roland Garros, si c'est pas cette année?
Elle a que 23
elle
ans.
Jeune, ouais.
Elle a que 22 ans, même, il me semble. Est-ce que je la vois remporter Roland Garros? Pourquoi pas, hein, franchement. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Ça dépend de la forme des adversaires, mais. Si elle continue à progresser dans ce sens-là, elle a toutes ses chances de faire péter quelque chose de gros. Ouais.
Allez, on continue de se projeter vers 2026 dans quelques instants. Il est 10h25 sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent tout de suite. Et puis ensuite, les GG sur le buzzer s'attaqueront à la décision de la FIFA de programmer la CAN tous les 4 ans désormais. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
10h26 sur RMC, on continue avec les grandes gueules du sport de se projeter vers l'année 2026 qui approche à grands pas. Fred Weiss, Alizé Cornet, David Douillet, Christophe Cessieux. Avec un petit j'y crois, j'y crois pas, je vous propose des événements qui pourraient arriver en 2026 et les grandes gueules nous donnent leur avis. On a évoqué un éventuel doublé du PSG en Ligue des Champions, l'UBB qui pourrait enfin battre Toulouse en finale du top 14, Wemby qui pourrait être champion avec les Spurs dès cette année, la possible première victoire en Grand Prix d'Isaac Hadjar ou encore un nouvel exploit de Loïs Boisson à Roland-Garros. Les GG, mes petites voyantes à moi. On continue sur notre lancée. La Coupe du Monde va démarrer l'été prochain sur le sol américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Dernière compétition pour Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Et après 2018 comme coach et 98 comme joueur et capitaine, il va se retirer sur un nouveau titre de champion du monde. J'y crois ou j'y crois pas ? Chris, il sourit déjà. Dis-moi, Chris. Je te demande pas ce que tu veux, je te demande si tu y crois.
Ouais.
J'y crois. Ok. Fred.
Ouais, j'y crois un peu.
David.
Ouais, j'y crois.
Bah, il croit à tout.
Alizé.
Tellement envie d'y croire.
Non.
Tout le monde y croit. C'est incroyable,
mais oui.
Ça. Ok, alors vas-y, Alizé, toi. T'as l'air enchanté.
Mais non, mais évidemment, on a envie d'y croire. Pour la dernière de Dédé dans l'équipe, il va partir comme ça sur au sommet de sa carrière après avoir été sélectionneur pendant quoi, 15 ans. Ça fait combien de temps? J'arrive même plus à compter les années.
Non plus, alors, précisément.
Mais il a encore toute sa détermination, toute sa rage de vaincre. Et je pense que ça va être pour le connaître un petit peu, ça va vraiment être un objectif très très fort pour lui de partir comme ça sur une note très haute. Et puis on sait de quoi est capable l'équipe de France. Donc honnêtement, on a le droit d'y croire.
Les pronostics donnent 14,1% de chance à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde. Elle est deuxième favorite derrière l'Espagne qui est 17%.
Voilà, c'est pour ça que tu
donc les statistiques parlent pour nous.
Tu débrouilles, je te donne
les stats.
mais clairement, quand on pense à cette Coupe du Monde, on pense à l'Espagne éventuellement, mais après en deuxième évidemment, on pense à la France parce que Deschamps,
oui, c'est il y a le chemin, Portugal aussi qui est évoqué par les favoris.
Eux, on en a discuté tout à l'heure, ils choquent quand même assez fréquemment.
Il y a moins d'expérience, c'est sûr. Après, ils avaient gagné l'Euro en 2016, on s'en souvient très bien, malheureusement.
Non, je me rappelle pas du tout.
On préfère oublier ça. Donc, ils ont aussi réussi à gagner. Alors, pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'il y a la France fait a priori.
On fait partie des favoris. Didier Deschamps sait gérer un groupe, sait amener son groupe loin. Moi, j'ai envie d'y croire.
David, toi, t'y crois?
Il y a un petit détail que moi, je suis souvent la voiture balai dans ce discussion. Il y a un petit détail. Ouais. Oui, ça me va bien.
Ça te plaît.
Voilà. Non, parce que tu dégages les routes, c'est quelque chose de bien. Bref, il y a un petit détail que vous avez oublié, c'est le successeur de Didier. Et Didier, je le connais un peu. Voilà. Voilà. Et Didier, il a de l'ego, c'est un ancien champion. Il a sa personnalité. Et je pense qu'il fera tout, absolument tout, pour partir vers le haut et par le haut. Voilà. Et parce que la petite compète entre les deux, elle est là.
Mais pour Zizou, t'imagines?
Elle est affirmée.
Et David, si Zizou arrive et que Deschamps lui file la Coupe du Monde, tiens, maintenant débrouille-toi avec ça.
C'est aussi bien.
C'est un super cadeau.
Le cadeau, hein. Je suis pas sûr.
Après,
que Zizou,
ça va dépendre. Voilà. Il va peut-être dire, je viens pas en fait.
Et je pense qu'il a envie de lui offrir.
Et il adore. Et bien sûr qu'il adore.
Je me rappelle avoir discuté avec Philippe Saint-André en 2011 lorsque l'équipe de France de rugby rugby termine vice-championne du monde battue pour un rien par la Nouvelle-Zélande en finale. Derrière, Philippe prend l'équipe de France. C'était pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau quand t'as une équipe qui est au sommet.
Mais forcément, tu peux faire que moins bien.
La pression elle est énorme, ça c'est sûr. On a Joris qui est avec nous au 32-16 dans les grandes gueules du sport ce matin. Salut Joris.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes.
Oh, le petit accent chantant du sud.
Il est de Lorraine, le monsieur.
Ah oui, bien sûr.
Le nord de la Lorraine.
Bon alors Joris, est-ce que tu crois ou tu crois pas à cette troisième étoile pour l'équipe de France?
J'y crois moyennement. Ah. J'ai envie d'y croire comme tout le monde, mais il y a trop de paramètres qui m'empêchent, ce que je disais à l'heure au standard, d'être hypé par
ça. Mais ça pense de quel côté?
J'ai envie d'y croire parce que c'est une équipe normalement avec des champs qui va loin, à part un euro où on s'est fait sortir par la Suisse au penalty parce qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Mais sinon c'est une équipe qui risque d'aller loin, elle fait partie des favorites, donc on est obligé un petit peu d'y croire. Mais après sur des cas individuels, il y a trop d'interrogations. Je sais pas Dembélé dans quel état il va arriver. Doué revient, mais c'est pareil. Barcola, c'est le nôtre, c'est l'autre joueur, il n'est pas encore prêt ou pas assez.
Non, on a une équipe pour aller gagner.
On a une équipe pour aller gagner, mais elle va arriver dans quel état?
Si tout le monde est en forme.
Ouais, c'est ça.
Les autres équipes vont arriver dans quel état aussi.
C'est pareil.
Est-ce que Deschamps va encore réussir à les mener jusqu'au bout en sachant que Zidane arrive derrière? Parce que oui, c'est bien beau qu'il lui laisse le bébé avec la Coupe du Monde dans les mains. Ça serait très bien. Hein, et puis Zidane fera avec, puisque bon, quand il arrive à Madrid, on lui avait promis que ça allait mal se passer. Puis bon, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc finalement, c'est pas si mal passé que ça. Mais j'ai plein de petites interrogations comme ça qui me font douter. Après, c'est ce que je disais au standard aussi tout à l'heure. Si on arrive autour des quarts, et ce qu'on devrait arriver normalement, là, la machine des champs devrait se mettre en place après si Mbappé reste dans cette forme-là, parce que c'est lui qui va tout changer, il faut pas. C'est lui qui changera tout.
Donc en gros, Yoris, tu y crois quoi.
Mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il a raison, ça dépend du collectif, ça dépend du groupe et de la forme de chacun. C'est pour ça que là aussi, il faudrait la boule de cristal pour voir arriver chaque joueur.
Oui, chaque joueur de chaque équipe dans ce cas-là.
Évidemment.
Pourquoi sur la France?
Mais parce qu'on est concentré sur la France.
Oui, mais je suis d'accord. Mais si on doit se comparer aux autres, il faut aussi prendre ça en considération.
Les paramètres sont les mêmes. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là.
En tout cas, Yoris, c'est convaincu.
Pour gagner une Coupe du Monde.
Complètement.
On a les joueurs pour gagner une Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. On n'aurait pas les joueurs. On pourrait dire, non, on n'y croit pas. On n'a pas les joueurs, on n'a pas le niveau, etc. Aujourd'hui, si tout le monde est bien, si tout le monde est en forme, on peut être champion du monde.
On a les joueurs, le sélectionneur, et on sait comment faire. Donc ça fait quand même une bonne tambouille.
Ouais. C'est vrai, t'as raison. Joris s'est convaincu lui-même, donc c'est parfait. Tout le monde est d'accord, finalement, ce matin. J'y crois pas. Et si le 15 de France réalisait enfin le grand chelem dans le tournoi des Six Nations?
Comment ça, enfin? Il n'y a pas si longtemps, quand même.
C'est vrai. 2022, le dernier, mine de rien. Vainqueur l'année dernière, les Français avaient malgré tout échoué face à l'Angleterre, l'empêchant ainsi de réaliser le fameux Grand Chelem. Malgré la tournée automnale quand même décevante, est-ce qu'on peut croire à la bonne année pour les hommes de Christophe Galtier? J'y crois.
De Christophe?
Fabien Galtier. C'est dans le foot juste avant.
C'est un mélange entre Christophe Cessieux et
Galtier. Oui, mais peut-être que c'est ça. Christophe, j'y crois, j'y crois pas.
Ouais, j'y crois.
Fred?
J'y crois pas du tout.
Ah, il a rajouté le du tout.
Dès qu'il parle de rugby de façon.
Alizé,
j'ai le droit d'utiliser un joker, je sais pas.
Très bien. David.
Moi je dis Dupont, j'y crois.
Ah, encore Dupont, toujours Dupont.
Christian, faut pas miser sur un seul homme, c'est dangereux.
Et en plus,
c'est
dangereux. T'as l'air vraiment convaincu.
Non, je suis pas complètement convaincu. Mais c'est vrai que c'est une année paire. Les années paires, ça veut dire qu'on reçoit l'Irlande et l'Angleterre qui sont quand même les deux plus gros adversaires dans le tournoi. Donc, l'Irlande, on est allé la battre chez elle l'année dernière. Le gros hic, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui me fait douter, parce que l'Angleterre revient vraiment au sommet. On l'a vu lors de la tournée de novembre. Elle a des joueurs qui sont en train de d'éclater comme Pollock. Et voilà, ce sera le dernier match. J'espère évidemment que l'équipe de France arrivera invaincue pour ce dernier match au Stade de France au mois de mars, que l'Angleterre fera pareil et que là on aura un crunch étincelant, quoi, un crunch qui va vraiment postiller et qu'on battra ces maudits roast beef pour décrocher un nouveau grand chelem. Ce serait magnifique.
J'ai entendu ça toute ma jeunesse. Les roast beef, mon père appelle les roast beef.
David, toi t'es convaincu aussi, et toujours grâce à Antoine Dupont.
Oui, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette horlogerie fine que peut être la mécanique d'une équipe de France et ça va rassurer tout le monde. Je pense qu'il nous a manqué la saison passée et je suis sûr que avec un Antoine là, toute l'équipe va reprendre ses marques. Les gens vont pouvoir se reposer, revenir dans le match. Enfin, c'est facile. Non, mais quand je dis se reposer pendant les matchs, c'est beaucoup plus facile à gérer.
J'avais compris, mais c'était drôle quand même.
Ah bon. Que sans lui, voilà, c'est tout. Et tout le monde va pouvoir être beaucoup plus serein, avec moins de pression, puisqu'il prend tout sur ses épaules.
Tu penses qu'il va devenir le liant qui nous manquait là, la saison dernière ?
Mais c'est comme toutes les bonnes sauces. Si t'as pas de liant, si t'as pas l'ingrédient principal, c'est pas bon.
On y revient à la cuisine.
Et revient tout le temps à la cuisine.
C'est comme ça.
Oui, après le tournée d'automne était catastrophique.
Oui, c'est aussi bien de le rappeler.
Et j'ai quand même l'impression que cette équipe de France, chaque fois que.
Avant de faire la bonne sauce, il faut faire des essais. Avant de faire le plat parfait, il faut des essais.
C'était vraiment pas terrible. Franchement, on
était pas terrible. On pas terrible et catastrophique.
Moi, j'ai trouvé ça catastrophique parce que franchement, j'étais pas bien. Franchement, quand je les voyais jouer, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu.
Même pas regardé.
Si, en plus, si, on était,
pour
on
une
était
fois.
Ici. Hey, rappelle-toi, on était ici, on les regardait en même temps. Donc, si, je les ai vus, manque de peau. Et en plus, j'ai l'impression que cette équipe choque. Dès que ça doit faire des performances, ça ne les fait pas. Par exemple, ça fait depuis 2011 qu'il n'y a pas de podium au niveau mondial. Donc,
au niveau mondial, mais là, on parle
de l'équipe qui choque, donc elles ne le font pas.
Ils sont vainqueurs du tournoi. Ils ont fait le grand chelem.
Je suis d'accord.
Là, on est en Europe. On n'est pas face aux
Springboks.
Ils confondent tout, quoi.
L'Europe
et les États-Unis. L'Europe et le monde.
Il est focus sur les États-Unis.
Alors, le monde, quasiment l'Europe, réellement.
Quoi?
Mais pour le rugby.
Ah non, il y a quand même l'Afrique
du Sud, la Nouvelle-Zélande.
C'est pour ça que j'ai dit quasiment.
Mais non, quasiment. Et ensuite,
ce que je dis juste, c'est qu'il y a une équipe qui choque. Donc ils vont choquer.
Très bien. On verra bien ce qu'ils disent.
Moi, je propose un nouveau sujet pour les GG. Est-ce qu'une équipe qui gagne a toujours besoin d'une locomotive dans leur équipe? Moi, je dis oui. Toi, Fred, qui as fait un sport d'équipe, t'es bien placé pour le savoir. Et tu nous as parlé de Tipeee tout à l'heure. Il y a besoin d'une locomotive. Quand on l'a pas, quand personne prend la place, eh ben, c'est toujours compliqué. Là, ça va pas l'être.
Bien dit, David.
On a Antoine Dupont. J'y crois pas. La saison de cyclisme n'a pas encore redémarré, mais on a déjà hâte d'y être. Pour Tadej Pogacar, Vingegaard, Evenepoel ou encore Mathieu Van Der Poel, mais aussi et surtout pour un certain Paul Sexas. Prodige du cyclisme français qu'on a hâte de voir encore un peu plus exposé aux yeux du monde et notamment lors du prochain Tour de France. 19 ans seulement et déjà médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe, ne pourrait-il pas aller chercher un top 5 sur la prochaine grande boucle? J'y crois ou j'y crois pas? Fred?
J'y crois.
Alizé?
J'ai réfléchi, attendez.
T'as j'y déjà crois. Un joker, hein?
J'y crois.
David?
Ah ouais, j'y crois, moi je l'adore. J'y crois.
Chris?
Top 5?
Ouais. Alors dis-nous pourquoi oui. Non?
Bah, déjà, il faut qu'il participe au Tour. C'est pas encore décidé. On va voir son début de saison et ils décideront ensuite en fonction de ses résultats de la ligne ou non sur le Tour. Je pense qu'il y sera. Je pense qu'il participera au Tour de France, mais je pense pas qu'il participera au Tour dès
avec
sa première participation dans l'optique de faire un top 5. Je pense qu'il va falloir qu'il s'accroche, qu'il voit comment se joue le classement général d'un grand Tour pendant une semaine, 15 jours. Ça sera déjà pas mal. S'il arrive à rester dans le coup, dans le top 5, dans le top 10 durant les 15 premiers jours, s'il arrive à être dans le groupe de Pogacar, de Vingegaard, de Evenepoel dans les premières ascensions, ce sera déjà extraordinaire. Mais il a 19 ans, c'est une course de 3 semaines, il n'en a encore jamais fait.
Oui, c'est ça.
Viser un top 5 dès sa première participation, ça me semble un peu trop ambitieux. L'année prochaine, enfin 2027 ou 2028, je pense qu'il va s'aguerrir un peu, mais là, c'est un peu trop tôt quand même.
Il n'a jamais fait
un grand tour et de faire un top 5, non, j'y crois pas.
Il n'a pas intérêt à afficher son ambition alors, parce que tu vas lui tomber dessus sinon.
Mais pas du tout. Non. Et d'ailleurs, il le dit, il rêve à terme de briller. Et c'est, le Tour de France l'anime, mais il le sait, c'est pas pour tout de suite, quoi. Je veux dire, à 19 ans, il faut.
Comment ça se passe, Christophe? Ton premier, tu dois. T'es là pour apprendre.
Ça dépend des mecs. Par exemple, Cyril Guimard dit, je pense que c'est une mauvaise idée d'aligner Paul Sexas dès à 19 ans pour un premier tour. Lui, avec Bernard Hinault, il l'avait façonné, il l'avait préparé pour que lors de sa première participation au Tour de France, il soit déjà performant et en possibilité de le gagner, et c'est ce qu'il a fait. Mais il avait 22 ans. Et là, 19 ans, même si les coureurs cyclistes sont de plus en plus matures très tôt, là, c'est quand même un peu trop tôt. Il faut quand même l'expérience
de la maturité physique aussi.
Bernard, la carrière de Bernard, j'adore, c'est mon ami. Je l'aime, Bernard. Mais le sport a évolué. L'entraînement a évolué. Tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, ce qu'on était capable de faire à maturité, à 22 ans, 23 ans, il y a 30 ans ou 35 ans, on a avancé. On est capable de le faire à 18 ou 19 ans aujourd'hui. À quel âge Pogacar, il a été devenu performant sur le tour?
Il était un peu plus tard quand même. C'était pas à 19 ans. Je sais, je vais te dire, mais c'était pas.
Il avait passé un test. C'est un extraterrestre quand même aussi, hein. Faut pas l'oublier.
Oui. Mais oui, mais on n'a pas le droit d'avoir des extraterrestres.
Mais on a complètement le droit, David.
Bah, on croit, en Paul Sexas pour être notre extraterrestre.
Jérôme Pignot m'a dit que c'était un extraterrestre. Moi, je le crois sur parole.
Bah oui. Mais sincèrement, il a montré des choses assez incroyables pour son jeune âge l'année dernière. Moi, je trouve que ce garçon a toutes les qualités. Alors, c'est vrai, Christophe a raison. Quand tu vois le top 5, quand tu vois les du top 5.
Il faut arriver à faire sa place,
tu vois. Puis surtout avec des vieux briscards. Puis le Tour de France est tellement compliqué. C'est
il y avait 22 ans Poggi quand il a gagné son premier tour. Hein.
Quand
22
même.
Ans.
Tu vois, il l'a fait
top 5. Tu parlais du top 5.
C'était son premier ?
Ouais. Non. Oui, c'était son premier tour.
Mais
22 ans comme Hino. Quoi.
Quand on parle d'extraterrestre, effectivement, ça prend tout son sens. Bon, on verra si Paul Sexas, tu y crois.
J'espère qu'il te donnera tort, Christophe.
J'espère, moi aussi.
Non, on espère tous, t'imagines comment on rêve.
J'imagine, attends, Sexas dans le coup pour la victoire, pour le classement.
Moi,
je saute sur mon fauteuil.
T'exploses les oreilles des auditeurs d'RMC.
Mais tout dépendra de la gestion.
Il faut raison.
Il y a plein, évidemment, de choses qui rentrent en compte. Un dernier, j'y crois pas. Rapidement, c'est la plus grande rivalité du tennis actuellement. Sinner-Alcaraz. Ils vont encore une fois nous faire vibrer en 2026, mais pour le moment, net avantage à l'Espagnol qui mène 10 à 6 dans leur confrontation. 2026 pourrait-elle donc être l'année de l'Italien ? Pourquoi ne pas imaginer que Sinner va prendre le meilleur sur Alcaraz ? J'y crois ou j'y crois pas ? Alizé.
L'éteindre, non. Éteindre Alcaraz complètement, non.
Fred.
Alors c'est prendre le meilleur, la question est oui.
Prendre le meilleur, ça veut dire gagner un grand chelem de
plus. Voilà, par exemple. C'est pas éteindre, mais c'est...
Non, mon cœur me dit non.
Tu n'y crois pas.
Ma raison me dit peut-être un peu oui, mais mon cœur me dit non.
Fred.
Mais moi, je suis sur la raison, donc oui.
Ok. Chris.
Ouais, je pense que Sinner va...
Ouais. David.
Pas éteindre, hein, pas éteindre Alcaraz, mais il va le dominer.
David.
Bah, pour les raisons qu'on a invoquées tout à l'heure.
Ouais, exactement.
Je pense que l'ami Alcaraz va avoir du mal cette année et que Sinner va prendre le pas.
Voilà. Les choix de carrière, c'est tellement important. Moi, j'espère encore une fois qu'il nous donnera tort et qu'il arrivera à trouver un entraîneur avec qui il pourra construire une relation aussi forte qu'avec Ferrero. Mais là, le choix de carrière peut être vraiment crucial. Hein.
Ouais, et puis Sinner qui change sa façon de jouer justement.
Sinner, il est en progression constante.
C'est un robot, Sinner.
Mais on peut pas les comparer. De toute façon, ce serait inutile de comparer la créativité absolue avec la robotisation de Sinner. Chacun ont leur qualité très spécifique et ils sont tous les deux. Alors là, pour le coup, on parle d'extraterrestres. On en a deux en même temps. Un peu à l'image de ce que le tennis nous avait proposé depuis une vingtaine d'années. Mais en l'occurrence, moi, c'est juste le début d'année là qui me questionne. Je pense que l'Australian Open risque de donner le ton sur le reste de la saison. Et ça va être très intéressant de voir dans quelles conditions vont arriver ces deux champions. Là, sur le début d'année, clair avantage à Sinner. Ensuite, quand il y aura la terre battue et tout ça, à voir quand même. Parce que moi, je trouve que quand même Carlos, il est encore un petit peu plus fort sur terre battue, même s'il a failli perdre en finale de Roland cette année sur la longueur. Il fait un petit peu plus de choses sur cette surface.
On verra ce que ça donne pour cette.
C'est son équilibre personnel qui va dicter ses résultats aussi.
Aussi. Après, vas-y, David.
Vas-y rapidement, David.
Non, ça n'a rien à voir. Finissez.
Non, j'allais dire, les champions de ce calibre ont l'habitude quand même aussi de séparer l'aspect personnel et l'équilibre personnel avec le professionnel. Les deux sont mélangés.
Ça ressemble à l'histoire d'amour.
Les deux sont mélangés.
Ça fait toujours mal.
Mais son tennis ne va pas disparaître. Enfin, il peut faire tellement de choses avec la balle, mais le problème, c'est qu'en face, il y a un Sinner qui, lui, est vraiment imperturbable.
Qui est presque robotique, effectivement. David, tu voulais ajouter quoi ?
Ouais, non, mais est-ce qu'on pourrait baisser un peu le micro de Fred, parce que j'entends son gros souffle dans mon casque, et j'ai l'impression de faire un débat avec Dark Vador.
J'ai
l'impression que Dark Vador est avec
Je suis désolé, mais je suis très malade, là, et j'ai vraiment beaucoup de mal.
Effectivement, ça n'avait rien à voir.
Effectivement, ça n'avait rien à voir. Je vous donne juste quand même le résultat du sondage, parce qu'on avait demandé sur X, le compte X d'RMC Sport, ce que les gens pensaient qui avait le plus de chances d'arriver en 2026. Eh bien, sachez que c'est la première victoire en Grand Prix d'Isaac Hadjar qui arrive en premier à 45%, devant la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde 21% et le Paris Saint-Germain qui fait le doublé en Ligue des Champions 19%. Quand même, Wembanyama arrive juste derrière. 10h46 sur RMC, on revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. On va ouvrir le dossier du jour pour parler de la CAN et puis ensuite on ouvrira le vestiaire des GG, un vestiaire très musical aujourd'hui. À tout de suite. Il est 10h47 sur RMC, les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. Mais avant d'ouvrir notre débat, une alerte info qui vient de tomber, Thibaut Ninoël.
Et oui, Flora Moussi, puisqu'on apprend il y a quelques minutes la disparition de Brigitte Bardot, icône du cinéma français. Elle avait 91 ans. C'est la fondation Brigitte Bardot qui nous apprend cette triste nouvelle dans un communiqué. Actrice qui avait choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa fondation, la fondation Brigitte Bardot, qui tient à saluer la mémoire d'une femme exceptionnelle. Les hommages se multiplient déjà et on en reparlera évidemment en détail dans les infos de 11h.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 10h48, vous êtes bien sur RMC, les grandes gueules du sport sont de retour avec David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Et vous aussi qui êtes avec nous en cette période des fêtes, envoyez-nous vos messages au 06 12 424 424. Je vous rappelle aussi que ce week-end, on vous fait gagner dans les grandes gueules du sport un PC portable Altix 16 pouces garanti 3 ans. Altix est une marque française d'ordinateurs installée à Nantes avec un vrai ancrage local. Pour remporter votre PC portable, vous appelez le 3216 touche 4 ou vous envoyez sport au 732-16. Vous participerez ainsi au jeu du sport tout à l'heure et le vainqueur remportera son PC portable. Allez, les GG vont débattre. On ouvre tout de suite le dossier des grandes gueules.
RMC, le dossier des GG.
C'est une annonce qui a fait beaucoup parler alors que la CAN bat son plein en ce moment au Maroc. On vous rappelle qu'RMC est la radio officielle. Vous pouvez suivre tous les matchs sur notre antenne et le débrief tous les soirs sur place avec l'équipe de l'After CAN. La Confédération africaine de football a annoncé que la compétition qui se déroulait jusque-là tous les 2 ans allait désormais passer tous les 4 ans à partir de 2028. En partie pour satisfaire la FIFA qui souhaite organiser en plus une nouvelle compétition inspirée de la Ligue des Nations de l'UEFA, mais cette fois-ci adaptée au continent africain. Une décision qui fait évidemment beaucoup parler, et notamment sur place au Maroc, où on va retrouver Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Alors dis-nous tout, salut. Parce que je crois que l'annonce n'est pas très bien passée auprès des acteurs du foot africain et des supporters. Hein.
Oui, cette décision fait lourdement parler pendant cette Coupe d'Afrique, une décision de la Confédération africaine qui n'avait que très peu filtré, qui bouleverse la CAN. Il faut comprendre que la CAN est la plus grosse entrée d'argent pour les fédés africaines. Le sélectionneur malien Tom Saintfit est outré par ce choix.
I'm also very shocked with it. I'm very disappointed. 1957 was the first AFCON and since that period every 2 years there was AFCON and it's the pride of African football, the best players from Africa who perform all the big clubs in Europe who come together, the celebrations of the fans.
Voilà, vous l'aurez compris qu'il est outré par ce choix. Il manquait la traduction. Voilà.
Tu vas nous la faire, Nico.
Tout va bien. Mais voilà, il ne comprend pas pourquoi on est passé à tous les 4 ans parce que c'est quand même la fête du football africain. C'est Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine, qui a pris cette décision, bien influencé par les têtes pensantes de la FIFA et son président, Gianni Infantino, qui voulait voir la CAN passer en format 4 ans depuis très longtemps. Ce choix crée le débat. Le défenseur algérien Aïssa Mandi est lui totalement favorable.
Je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'un peu tous les 2 ans, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu répétitif. On a l'impression de voir la CAN un peu tout le temps. Mais tous les 4 ans, c'est comme tous les autres championnats dans le monde. L'Amérique du Sud, je pense que c'est tous les 4 ans aussi. Le championnat d'Europe tous les 4 ans, je pense que c'est quelque chose de plutôt logique.
Et après des semaines de polémiques sur la libération des joueurs africains pour cette CAN, le sélectionneur marocain Walid Regragui voit surtout le bon côté des choses.
Voilà, le rendez-vous tous les deux ans, ça permettait à beaucoup d'équipes de progresser, de grandir, de pouvoir se refaire rapidement. Honnêtement, quand on voit les problèmes qu'on a eus avec nos joueurs en Europe, voilà, aujourd'hui, les clubs, les plus grands championnats, ils sont en Europe. Les meilleurs joueurs africains jouent en Europe. Il y a des intérêts. Et donc, la CAN, forcément, tous les quatre ans, ce sera un vrai rendez-vous que personne ne voudra rater.
Côté supporters, comme pour les acteurs, le débat fait rage. Mais globalement, ceux qu'on a rencontrés dans les rues de Rabat depuis plusieurs jours ne comprennent pas du tout ce choix.
Merci beaucoup Nico, tu restes évidemment avec nous pour participer aussi au débat. Alors les GG, cette décision de la CAF de faire passer la CAN désormais tous les 4 ans, compréhensible ou non ? Alizé.
J'avais dit incompréhensible au début et puis maintenant un peu plus compréhensible pour moi.
David.
Ouais, c'est compréhensible.
Fred.
Compréhensible.
Chris.
Pareil, compréhensible.
Tout le monde
n'a pas de débat, c'est nul.
Tout le monde est d'accord. Alors pourquoi vous pensez que c'est compréhensible ? Parce qu'il y a une vraie fronde, on l'a compris aussi, des supporters du foot africain qui ont du mal avec cette décision. Parce que c'est vrai que c'était quand même ancré depuis 1957 que la CAN se disputait tous les deux ans. Donc forcément,
72 ans.
On bouscule un petit peu leurs habitudes aussi aux supporters africains. Donc quels sont vos arguments ?
Oui, puis on ne se rend peut-être pas bien compte de l'impact que ça a sur le continent africain. C'est vraiment la fête du football, on l'a dit précédemment, mais c'est vrai que si on veut s'aligner sur les autres compétitions internationales, c'est comme l'a dit très justement l'un des joueurs qui a parlé, l'Euro c'est tous les 4 ans, en Amérique du Sud c'est la même chose, et au final ce serait juste cohérent de passer sur ce format-là, mais après on a l'impression qu'on enlève quelque chose aux supporters africains, et ça peut être cruel, ça peut être incompréhensible, donc c'est pour ça qu'au début je me mettais du côté plutôt des spectateurs, des amateurs de foot et enlever...
Est-ce que tu crées pas l'événement ? Tu crées pas plus l'événement si
tous les deux ans, c'est déjà un événement. Oui, en fait, à partir du moment où tu le mets pas tous les ans, c'est déjà un événement.
Oui, mais c'est une très forte récurrence et c'est pour ça que tout le monde a changé ça. Nous, au basket, on faisait un euro. Une Coupe du Monde, un euro, les Jeux Olympiques. Et en fait, on s'est rendu compte que ça créait pas.
La fréquence était trop forte.
La fréquence était trop forte et il n'y avait pas autant d'engouement sur les événements qu'on faisait. Donc on dit qu'on crée un événement et encore une fois, on revient à l'Europe. L'Europe fait ce genre de choses et je peux comprendre encore une fois que sur le continent africain c'est une vraie fête, mais peut-être que c'est mieux déjà pour le repos.
Et puis surtout c'était traditionnel, ça faisait 72 ans que c'était tous les deux ans, et c'est vrai que là c'est un gros changement, et je peux comprendre la frustration des spectateurs, des amateurs de foot.
Malgré tout, c'est vrai que c'était un peu un ovni, cette Coupe d'Afrique des Nations dans le calendrier du football international.
Le fait que c'est au milieu de la saison très souvent.
En hiver, en plein pendant la saison des clubs.
Et là dans la foulée, il y a une Coupe du Monde en plus.
T'as la Coupe du Monde, c'est pour les clubs aujourd'hui, et on sait que les clubs ont de plus en plus de pouvoir par rapport aux sélections, et je pense qu'ils ont réussi à avoir finalement la peau de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Bah oui, parce qu'il y a toujours le débat de libérer les joueurs pendant un mois.
Le problème, c'est que cette CAN, tu peux pas la faire se dérouler en été, parce que en été en Afrique, il fait trop chaud pour pouvoir disputer des compétitions. Tu peux pas, comme au Qatar, faire des stades climatisés partout sur le continent africain. Donc de toute manière, tu peux pas la faire en été, et tu peux la laisser qu'en hiver, et effectivement ça devient de plus en plus compliqué par rapport aux clubs qui ont
en termes de programmation, c'est toujours la même chose en fait.
En termes de nombre de matchs disputés, de blessures des
pour
uns
les
des
organismes
autres.
C'est très très brutal.
Nous on arrêtait les euros tous les deux ans. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher. On trouvait plus de pays capables de l'organiser.
Par contre, là, c'est la tirelire du football africain.
Oui, bien sûr.
C'est 100 millions de bénéfices par édition.
C'est ça aussi. Nico, tu voulais ajouter quelque chose.
Ouais, il y a quand même un élément qui fait un peu tiquer les présidents de fédération, c'est que à partir de 2032, donc quand ça sera instauré tous les 4 ans, c'est-à-dire que la CAN va tomber une année d'Euro et de Jeux Olympiques d'été, et donc pour ramasser des sponsors et ramasser des droits télévisés, même montant qui seront attribués aux fédérations africaine, et ça inquiète grandement les présidents de fédération.
Il y a beaucoup plus de concurrence, donc forcément.
Je ne crois pas trop. Parce
et c'est souvent. Pour en avoir discuté avec une personne de la CAF, ce sont souvent les mêmes sponsors qui sponsorisent l'Euro et la CAN. Et donc, ça, ils s'inquiètent grandement de ne plus avoir de sponsors à partir de 2032.
David.
Moi, il y a une question que je me pose. Sur les sponsors, je ne suis pas très inquiet parce qu'il y en a qui bousculent. Enfin, le foot. Et pas en berne de sponsors, croyez-moi. Et c'est pas parce que ce sont les mêmes qui trustent aujourd'hui les deux compétitions que demain il n'y en aura pas d'autres. Ça, j'en suis quasi certain. En revanche, je me pose une question. question. Je me dis, bon, quelle est la lisibilité de la CAN aujourd'hui? C'est un peu obscur, on l'a dit, on vient le décrire. Est-ce qu'elle sera plus lisible avec une échéance tous les 4 ans? Bah peut-être, mais par contre, moi je pense au développement du foot africain. Mmh. Est-ce que ça va pas? Est-ce que cette lisibilité accrue tous les 4 ans va pas profiter au foot américain, au foot africain, ou l'inverse? Parce que là tous les deux
c'est
ans,
c'est l'inquiétude, bien
foot,
sûr.
Voilà, c'est là, moi c'est ma seule inquiétude, c'est-à-dire que on voit que le foot africain globalement progresse tranquillement, mais ouais, est sur une pente très ascendante et c'est très bénéfique. Est-ce que tous les 4 ans ne va pas freiner ouais. ça?
Oui, mais il y aura une nouvelle compétition, accélérer, par exemple. Je sais pas. La FIFA va instaurer une autre compétition aussi.
Oui, alors reste
mais
à savoir.
Ligue des Nations, voilà. Ligue oui. des Nations comme il y a en Europe, mais
tu vois comment la Ligue des Nations est considérée chez nous, voilà. Oui,
c'est cette compétition qui n'intéresse personne, on est d'accord.
Voilà,
exactement.
Exactement. Et je vais juste vous faire réagir aussi. Il y a un petit message sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424 qui nous dit aussi que nous en Europe c'est facile d'accepter les compétitions tous les 4 ans parce qu'on a la Ligue des Champions tous les ans qui nous fait vibrer. En Afrique ce n'est pas le cas. Il y a aucune compétition majeure qui fasse vibrer les supporters. Vrai. Ils très attendent juste. La CAN c'est avec impatience. Ce qui est vrai aussi, c'est vrai que c'est difficile de nous mettre dans cette position là parce qu'on ne connaît pas ça. Mais c'est vrai que la CAN avec cette récurrence, c'est ce qui fait vibrer les supporters africains.
C'est pour ça qu'on peut pas mesurer l'impact de cette compétition, parce que nous on vit pas la même chose du tout sur le continent européen. Donc c'est vrai que là tu enlèves quand même un événement qui revient tous les deux ans et tu me dis Fred, on crée un événement, mais en fait l'événement il est déjà créé, c'est énorme, tous les deux ans pour eux c'est leur compétition principale et c'est vrai que du coup ça va faire un énorme trou dans le football africain. Si je peux me permettre, un trou, parce que forcément, il va peut-être y avoir d'autres compétitions pour
oui, mais du compenser coup, là, il va un falloir peu ce manque. Créer ce nouvel événement, ça va être, on part de plus loin aussi.
Vous m'avez convaincu, c'est incompréhensible.
Très bien.
C'est alors qu'on vient de dire tout ce que c'était compréhensible, on est en train de changer
notre
tourner notre veste.
On va remercier Nicolas Pelletier qui est sur place pour RMC au Maroc, qui bosse très très dur tous les jours avec toutes les équipes d'RMC. Merci Nico, t'es sur le pont tous les jours.
Il fait froid au Maroc.
C'est vrai. Mais
ah
non,
oui, il pleut, il fait froid.
Toujours moins froid qu'à Paris, je te rassure.
T'as même pas l'avantage du beau temps, c'est terrible ça. Merci à toi Nico. 10h59 sur RMC. La dernière ligne droite des GG du sport arrive dans quelques instants. On va ouvrir les portes du vestiaire pour parler musique dans quelques instants. Et puis le skipper français Mathieu Perrot sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.